Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, dans l'Aisne, dans l'Oise, dans la Somme et puis partout ailleurs sur graphite.net, le site internet qui vous propose également de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Donc n'hésitez pas. Biotine, c'est tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion entre 10h et 11h vous permet de vous tenir informé de l'actualité scientifique. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, une journée qui avait été promulguée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2008, donc journée nationale de la sensibilisation à l'autisme. Le 2 avril 1958, c'est la création en France de la première licence de sociologie dans les facultés de lettres. La sociologie, voilà, apparaît dans les facultés en 1958. Naissance, le 2 avril 1841, de Clément Ader, ingénieur français, pionnier de l'aviation. Bien évidemment, son nom est quand même passé à la postérité. Il est le premier à avoir fait décoller un engin motorisé plus lourd que l'air. C'était en 1890. Il est donc né un 2 avril. Décès, le 2 avril 1872, de Samuel Morse, scientifique américain, développeur d'un télégraphe électrique et d'un alphabet qui portent donc tous les deux son nom. Morse, Samuel Morse, qui est donc décédé à New York le 2 avril 1872. Ça, c'était l'éphéméride. C'était assez rapide. Des fois, il y a des éphémérides un peu plus longs. Mais là, le 2 avril, non, je ne sais pas. C'est pas folichon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas grave. Au niveau de l'actualité, alors on va parler encore pas mal de choses, parce qu'au niveau de l'actualité, c'est assez dense. Donc, on va essayer un petit peu de faire un panel assez exhaustif des sujets qu'on va aborder. Alors déjà, on va aborder l'hiver météorologique qui c'est donc terminé. L'hiver météorologique décembre, janvier, février, début mars. Météo France vient de publier un bilan climatique. Cet hiver, la France est retrouvée sous l'influence de l'anticyclone pendant de longues périodes. Et pour conséquence, eh bien, un temps particulièrement calme et sec. Ce qui marque avant tout cet hiver, c'est l'absence de grands froids durables. Effectivement, on n'a pas eu un hiver vraiment vigoureux. Seules deux périodes de froid modéré se sont produites au cours des derniers mois. C'était autour du 20-21 décembre et autour du 12 au 27 janvier. Et puis c'est tout, les températures ont été en moyenne de 1 à 2 degrés au-dessus des valeurs saisonnières sur la majeure partie du pays. Et localement, ça atteint plus de 2 degrés. Notamment dans les Hauts-de-France et l'Alsace également. Deuxième fait marquant et inquiétant pour cet hiver, il n'a quasiment pas plu sur le sud-est du pays et sur la Corse. En revanche, sur le sud-ouest, les précipitations étaient parfois abondantes avec des crues, notamment les Landes, l'Ariège, les Pyrénées-Atlantiques. Et donc du coup, Météo France explique, cet hiver se classe parmi les 10 hivers les plus secs de la période qui part de 1959 à jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quand même une période assez importante et donc il fait partie des 10 hivers les plus secs, notamment en région PACA, Languedoc-Roussillon et Corse. Et en moyenne, sur la France, le déficit pluviométrique devrait dépasser 10%. Côté ciel, eh bien, l'ensoleillement lui a été excédentaire de 20 à 40% sur la moitié sud du pays, en particulier sur la Corse. La grisaille a par contre dominé sur le nord-ouest avec un ensoleillement déficitaire, notamment en Basse-Normandie et en Bretagne. Bref, le résumé et la conclusion de cette analyse de Météo France, c'est que cet hiver a été plus chaud, plus sec et plus ensoleillé que la normale. Eh oui, encore une illustration, je ne sais pas, de quelque chose qu'on évoque assez régulièrement dans cette émission. Autre sujet, au niveau médecine, le cannabis contient de nombreuses substances qu'on appelle des substances cannabinoïdes. Les deux plus connues, ce sont le CBD, le cannabidiol, et le THC, le tétrahydrocannabinol. Alors le THC, ça a des propriétés psychoactives qui génèrent une dépendance pour le consommateur. Ce n'est pas le cas du CBD. Et depuis peu, ce CBD est en vente libre en France, dans des boutiques spécialisées qui fleurissent un peu partout. Vous en avez sûrement déjà vu. Et ce CBD il est disponible sous forme de cartouches pour cigarettes électroniques, pour des huiles, des tisanes, des gâteaux. Alors le CBD, donc le cannabidiol, il a la réputation d'avoir des propriétés anxiolytiques, anti-inflammatoires et antalgiques. Même si des éléments issus de la recherche fondamentale soutiennent ces hypothèses, il n'existe pas ou alors très peu de données cliniques pour les confirmer ou pour les infirmer. Et c'est un petit peu l'objectif d'un essai qui a été mené et que cette étude a été publiée par Medscape, et qui cet essai s'est déroulé un petit peu en conditions réelles. C'est un essai qui a été contrôlé. Il a inclus plus de 2700 participants âgés de 21 ans ou plus, et ces participants souffraient d'anxiété, du trouble du sommeil, de douleurs chroniques. Il y a 14 groupes qui ont été formés, et donc on a pu avoir un Il y a 14 groupes qui ont été formés. Il y en a 13 qui donc ont reçu des extraits de CBD et un 14e groupe qui lui était un groupe témoin, ce qui nous permettait de faire des comparaisons. Et les critères de jugement principal, c'était l'amélioration distincte et palpable de la qualité de vie. Et il y avait d'autres critères qui avaient également été pris en considération. Une amélioration du sommeil et également une diminution de l'anxiété. Et les résultats qui, pour l'instant, sont intermédiaires, sont plutôt encourageants, parce que cette étude révèle que les consommateurs ont rapporté une amélioration de leur bien-être de 71% en moyenne. Il y en a 63% qui ont indiqué ressentir une diminution de leur anxiété et 61% qui ont eu une amélioration de leur sommeil. Donc les premiers résultats semblent plutôt positifs. Concernant la douleur, moins de la moitié des participants ont connu une amélioration liée à cette consommation de CBD. On a fait un autre essai, et un essai qu'on appelle un petit peu un essai en double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne connaissaient le médicament qui avait été reçu par le patient. Ça pouvait être un placebo par exemple, ce qui permet d'obtenir un niveau de preuve maximum, parce que quelque part on n'est pas influencé par ce qu'on en a reçu. Et du coup, on a voulu avoir des essais, on attend les résultats. En tout cas, l'engouement pour le CBD est actuellement très important. Il a une excellente réputation auprès des consommateurs, ce qui peut fausser un petit peu le ressenti des personnes. Néanmoins, au vu des premières données qu'on recueille, eh bien, cette substance mériterait qu'un ou plusieurs essais qui suivent scrupuleusement les recommandations de bonne pratique soient menées. On n'a pas encore nécessairement un recul nécessaire et des études faites à très grande échelle pour avoir une idée précise des résultats de la consommation du CBD. Mais en tout cas, on aurait pour l'instant décelé des effets bénéfiques prouvés dans l'anxiété et les problèmes de sommeil, nous dit-on. Eh bien, tant mieux, mais affaire à suivre, hein, comme toujours, faut toujours avoir un petit peu de recul dans ce genre de nouveaux produits mis sur le marché à grande échelle, bien évidemment. Vous écoutez Biotine, l'actualité scientifique et un peu de musique, bien évidemment, sur l'antenne de Graphite.
Je ne veux pas obéir aux doigts et à l'œil à la voix d'un maître. Non, 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 je ne veux pas rentrer dans le moule. Je ne veux pas rentrer dans le rang. T'attends quoi? Je ne veux pas me fondre dans la masse.
Moi, je veux toucher la masse.
I touch the mass.
Je veux faire la pluie et le beau temps.
I touch the mass. Everybody hails me. Hey, hey, I touch the mass. And you love me.
Ah, what?
Mm-hmm. I touch the mass. I wanna feel your body.
Je touche la masse.
Bah oui, on rentre du boulot. Hein. C'était Claire Diterzi avec Je touche la masse sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis entre 10h et 11h pour la rediffusion, pour vous tenir informé de l'actualité scientifique avec cette pandémie de Covid-19. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, on va avoir des études qui vont nous donner un petit peu un éclaircissement sur les impacts de cette pandémie, mais avec du recul, donc fatalement avec du retard quelque part. Et là, c'est une étude assez intéressante qui va aborder le sujet de la pédagogie au sens large, où on sait que pendant cette période compliquée de pandémie, il y a beaucoup d'élèves qui ont suivi des cours en ligne via des PowerPoint, via des cours en visioconférence, bien évidemment. Et puis aussi, déjà avant, on avait bien vu que les ordinateurs avaient remplacé peu à peu les cahiers dans les amphis, et beaucoup avaient également remplacé l'agenda papier ou le bloc-notes pour des versions numériques. C'est une habitude récente à l'échelle de l'humanité à laquelle notre cerveau doit encore s'acclimater, parce qu'en effet, il y a des chercheurs japonais de l'université de Tokyo qui ont démontré dans une série d'expériences qui ont été publiées dans la revue Frontiers in Behavioral Neuroscience, j'y arrivais. Bref, ils ont montré que le papier et le stylo restent le meilleur moyen de prendre des notes et de les garder en mémoire par rapport aux tablettes ou aux smartphones. Alors, ils ont mené une étude de cette université de Tokyo sur un groupe pas véritablement important. C'est une cinquantaine de personnes âgées de 18 à 29 ans. Donc, on est quand même plutôt sur un niveau étudiant, on va dire. Et ces jeunes se sont pliés à plusieurs expériences scientifiques pour évaluer leur capacité à se souvenir d'un emploi du temps lorsque celui-ci était écrit sur un calendrier papier, sur un smartphone ou sur une tablette. Et donc, après avoir lu un dialogue entre plusieurs personnages, les participants ont dû noter l'emploi du temps sur le calendrier, soit sur la tablette, soit sur le smartphone. Et déjà à ce stade, les scientifiques, ils ont observé une différence significative entre le support papier et les supports numériques, parce que les personnes qui utilisent un carnet ont mis moins de temps à remplir le calendrier par rapport à celles qui utilisaient un smartphone, une tablette. Donc déjà, on a une plus grande rapidité pour écrire les informations. Puis, les participants, ils ont attendu une heure durant laquelle ils ont effectué une tâche secondaire qui avait un petit peu l'idée de pouvoir faire une interférence et un petit peu les obliger à penser à autre chose, entre guillemets. Et donc, à l'issue de cette heure, ils ont dû se souvenir de l'emploi du temps des personnages, et pour cela ils ont répondu à un QCM, un questionnaire à choix multiples. Il y avait 16 questions à difficulté variable, et après chaque question, ils ont renseigné leur niveau de confiance quant à la réponse. Et cette tâche de remémoration a été faite pendant que les scientifiques observaient leur cerveau s'activer grâce à une IRM fonctionnelle qu'ils ont fait en même temps. Pour tous les participants, la remémoration du calendrier a activé les mêmes partie du cerveau, c'est-à-dire l'hippocampe, le pricuneus et le cortex visuel. Ce sont donc les régions qui sont impliquées nécessairement dans le langage. Mais l'activité de ces régions cérébrales est plus intense chez les personnes qui ont utilisé un carnet par rapport à celles qui utilisaient un support numérique. Donc pour les scientifiques, cela suggère que l'utilisation du carnet et du stylo stimule le cerveau avec les informations à retenir, mais aussi des informations un peu spatio-temporelles qui peuvent faciliter le processus de souvenir. Il y a d'autres recherches qui seront bien évidemment nécessaires, parce que là, on est quand même sur un panel assez peu important de personnes qui ont participé à l'expérience. Et puis, on voudrait aussi avoir des informations sur les effets à long terme sur l'activation du cerveau à ce dispositif numérique, notamment l'apprentissage également, et voir quel est l'impact sur l'apprentissage. En tout cas, c'est une première étude à ma connaissance qui aborde ce sujet-là, parce que on voit très bien que maintenant on est de plus en plus dans l'ère du numérique, et donc on défavorise les supports papier plus traditionnels. Et donc là, cette étude alarme un peu sur le fait que ça serait moins efficace au niveau de la stimulation du cerveau. C'est une première étude, hein, comme je vous l'ai dit, on en verra un petit peu plus, plus tard on en saura un petit peu plus, justement pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'était intéressant d'essayer d'avoir une première idée par cette évaluation. Et donc du coup, le Covid-19 avec ses cours qui se sont faits à distance, ça peut avoir un impact véritablement assez important. Mais là encore, on aura une vision avec du décalage, avec du long terme, bien évidemment. Autre information, on va aller dans l'espace et on va parler d'Apophis. Il a été découvert il y a déjà une quinzaine d'années, même plus que ça, c'était en juin 2004. Apophis, c'est un astéroïde. Il fait environ 350 mètres de long, 27 millions de tonnes. Et en l'espace de quelques semaines, la communauté scientifique s'était inquiétée d'un possible impact de cet astéroïde avec notre Terre. Et on avait prévu ça pour avril 2029. Eh bien, on a eu des informations qui montraient que la collision était très probable, mais il y a eu des nouvelles données qui ont été recueillies depuis la découverte de cet astéroïde. Et en fait, ça a éloigné ce risque, ouf, parce que franchement, en avril 2029, on avait autre chose à faire. L'orbite de cet astéroïde est désormais suffisamment définie pour exclure avec certitude tout impact pendant au moins 100 ans. Après, on verra, mais pour l'instant, ça ira. La collision n'est pas la seule possibilité dans les événements d'approche comme celui-ci, c'est ce que précise Gabriel Berderes-Mota, qui est chercheur à l'Université de Madrid, dans un communiqué. Il explique l'interaction gravitationnelle entre une planète et un astéroïde comme Apophis peut modifier la forme du corps, le briser en morceaux, désintégrer d'éventuelles roches détachées à la surface de l'astéroïde ou même éliminer d'autres corps en orbite autour de l'astéroïde. Il peut y avoir des roches, des satellites, des anneaux également. Avec son équipe, donc, il a analysé les caractéristiques physiques d'Apophis, sa forme, son champ gravitationnel, les facteurs qui pourraient influencer sa trajectoire et son angle de pente, et la pression de radiation également, et les perturbations dues à ses passages à proximité de la Terre. Et donc tout ça a été analysé, et les chercheurs ont réalisé une série de simulations numériques pour essayer justement de comprendre comment les objets en orbite autour de cet astéroïde pourraient être touchés par un rapprochement avec la Terre. Et dans un premier cas, tenant compte uniquement des perturbations gravitationnelles, et puis dans un second cas, je vais y arriver, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Dans un second cas, on va inclure un petit peu les perturbations dues à la pression du rayonnement solaire. Donc on va prendre d'autres critères supplémentaires pour affiner un petit peu la simulation. Et la conclusion, eh bien, c'est que du coup, on constate que la densité des particules diminue, que la pression du rayonnement solaire augmente, et donc ces objets en orbite autour de l'astéroïde peinent à rester intacts. Et finalement, on se rend compte que tout cela, quand l'astéroïde va se rapprocher de la Terre, eh bien 90% des roches détachées à la surface seraient totalement arrachées de cet astéroïde. Et les chercheurs montrent ainsi que l'approche d'Apophis pourrait avoir une incidence minime sur les marées et produire quelques glissements de terrain à la surface de l'astéroïde. Les astronomes espèrent désormais profiter du passage donc d'Apophis à proximité de la Terre, on l'a dit, en 2029, pour affiner bien sûr leur modèle et mieux prévoir à l'avenir les effets que pourraient avoir les événements d'approche d'astéroïdes en général. Parce que voilà, c'est aussi un autre danger. Bon là, on morphe quand même assez, hein, je trouve, depuis plusieurs années. On n'avait pas besoin d'un astéroïde qui vienne en collision avec la Terre. Donc c'est exclu pour l'instant. On a 100 ans devant nous, c'est pas mal. On aura le temps de réagir d'ici là. Mais en tout cas, c'est quand même des sujets qui sont qui reviennent fréquemment dans l'actualité. Que pense The Rebel of Tirana avec les filles d'Angleterre? Écoutez, on va voir ça et on se retrouve juste après.
Et puisque je te dis qu'elle baise les Anglais, c'est connu. Écoute, Alain, j'irai pas te raconter des salades. Là-bas, on aura qu'à lever le petit doigt, je te dis.
Les Anglais disent I love you. Hey girl. Les Anglais disent I need you. Mais ils ne savent pas dire je t'aime comme nous. Ils préfèrent dire yeah yeah à genoux. Les Anglais disent I want you. Hey girl. Les Anglais disent I kiss you. Mais ils ne savent pas dire l'amour comme
Restez ici, vous n'avez pas d'avenir à Chelsea. Ici, il y a ce bon vieux Eddie qui vous apprendra toutes les ficelles d'un French kiss à Paris.
Les filles d'Angleterre, c'était The Rebels of Tirana sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis, tous les mardis également. En fait, vous écoutez tout le temps Graphite et Biotine. Et puis, comme vous avez le site internet graphite.net, vous récupérez les podcasts et comme ça, vous nous écoutez où que vous soyez et quand vous le voulez. Bien évidemment, on a des informations sur la grande pyramide de Gizeh qui domine bien sûr le désert égyptien depuis plus de 4500 ans. Il y a environ 2 millions de blocs de granit et de calcaire. Et quelque part en son centre, il y a la fameuse chambre de Khéops. Cette pyramide exceptionnelle, les archéologues l'ont fouillée, cartographiée, mais elle cache encore des secrets que les chercheurs vont tenter de révéler grâce aux rayons cosmiques. Ce sont les muons qui composent ces rayons cosmiques qui pleuvent sans cesse sur Terre. Et comme ils interagissent de façon différente avec la pierre ou avec l'air, eh bien le fait de les analyser après leur passage par la grande pyramide de Gizeh va pouvoir révéler des détails de son architecture interne. Et en 2017, déjà, il y avait des analyses qui avaient montré deux vides jusqu'alors inconnus. On en avait parlé dans cette émission, d'ailleurs. Je m'en souviens de ces deux vides qu'on avait identifiés grâce à cette technologie. Et les archéologues espèrent cette fois obtenir une définition 100 fois supérieure, bien évidemment. Ils souhaitent ainsi sonder un vide découvert sur la face nord de la grande pyramide de Gizeh, mais surtout le grand vide de 30 mètres de long et de 6 mètres de haut identifié au-dessus de la grande galerie qui mène à la chambre du célèbre pharaon Khéops. Grâce à la sensibilité de leur détecteur, les chercheurs pensent pouvoir révéler la présence d'artefacts dans ce vide, des poteries ou des pièces de bois ou de métal, et plus encore comprendre aussi si ce vide correspond à une seule ou à plusieurs pièces. Et pourquoi pas, peut-être même s'il peut s'agir d'une antichambre du tombeau du pharaon Khéops. Pour l'heure, les archéologues aidés de physiciens travaillent encore à développer les instruments qui leur serviront à étudier la grande pyramide de Gizeh. Ils cherchent aussi les fonds qui leur permettront de les construire. Ils estiment qu'il leur faudra 2 ans pour cela et ensuite 2 à 3 ans d'observation devraient être nécessaires pour scanner la pyramide et révéler peut-être de nouveaux secrets. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt encore d'en savoir plus. Mais en tout cas, ça avance et les technologies vont nous permettre peut-être d'avoir une réponse pour savoir ce qu'il en est de ces secrets des mystérieux vides de la grande pyramide de Gizeh, bien évidemment. Autre information assez particulière et que du coup j'aborde avec vous. Il y a parfois donc certaines coïncidences qui sont assez troublantes. Et là, il y a des neuroscientifiques de l'université de Louisville, nous sommes aux États-Unis, qui ont eu la chance ou la malchance, hein, ça dépend de la situation et du point de vue que l'on peut avoir sur ce sujet, d'être au bon endroit au bon moment. Depuis plusieurs jours, ces neuroscientifiques surveillaient par électroencéphalographie il surveillait l'activité cérébrale d'un patient épileptique qui était âgé de 87 ans. Et en fait, ce patient, il a soudainement eu une crise cardiaque et il est décédé. Et en fait, c'est une coïncidence malheureuse pour le patient, mais plutôt heureuse, ou en tout cas, on était au bon endroit au bon moment pour la science, parce que les chercheurs, ils ont eu la possibilité de pouvoir enregistrer 15 minutes d'activité cérébrale au moment du décès, c'est une première. Et ce qu'ils ont enregistré, eh bien, c'est 30 secondes avant que le cœur s'arrête et 30 secondes après. Et en fait, ils ont enregistré une activité accrue des ondes cérébrales que les neuroscientifiques qualifient d'ondes gamma. Et ces ondes gamma, elles sont connues pour intervenir au cours des phases de méditation, de récupération de la mémoire, de flashback ou même de rêve. L'observation pourrait expliquer les histoires racontées par ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, ceux qui rapportent avoir vu leur vie défiler devant leurs yeux, mais surtout, c'est ce que suggèrent les chercheurs, ces travaux pourraient remettre en question la manière de qualifier la fin d'une vie et soulever des interrogations quant au moment judicieux pour planifier un don d'organes, car notre cerveau semble capable d'une activité coordonnée même lorsqu'il n'est plus alimenté par du sang frais. Parce que comme il y a un arrêt cardiaque, il n'y a donc plus de circulation sanguine. Et du coup, il y a encore une activité cérébrale. Il pourrait même être programmé pour nous guider dans l'épreuve de la mort. Alors, il y a des résultats qu'avait déjà observés de façon similaire chez le rat. Et donc, il y a de quoi envisager que la réponse biologique à la mort pourrait être universelle. Les neuroscientifiques notent toutefois que ces résultats doivent être considéré avec toute la prudence qui s'impose, bien évidemment, compte tenu du fait qu'ils sont tirés de l'étude d'un seul et d'un unique cas. Évidemment, il en faudrait plus. Et puis en plus, ce patient, comme il était atteint d'épilepsie, était un patient qui avait déjà un cerveau malade. Donc est-ce que les résultats qu'on a pu avoir sont concluants? La réponse est non, fatalement, parce qu'il n'y a qu'un seul cas. Donc il faudrait avoir plusieurs cas, il faut tomber là encore au bon endroit au bon moment. Enfin, c'est assez compliqué, mais en tout cas, cette information est assez troublante, bien évidemment. Et avec du recul et avec un peu plus de cas similaires, on pourra peut-être commencer à tirer le début d'une petite conclusion sur ce qui se passe donc au moment de la mort. Mais en tout cas, voilà, des scientifiques qui ont enregistré l'activité cérébrale d'un patient au moment de sa mort, c'était assez troublant. Dernière chose, et aucun rapport, parce que là on va faire vraiment une revue d'actualité scientifique, mais on va passer d'un sujet à l'autre. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue Journal of Fluid Mechanics et qui pourrait changer la manière dont les drones et les petits appareils volants sont conçus. Il y a une équipe de chercheurs de l'université de New York qui ont voulu comprendre les principes aérodynamiques des avions en papier. L'une des formes de vol les plus simples et pourtant peu étudiées, ils ont constaté que le fonctionnement des avions en papier était très différent des avions conventionnels et qu'il n'existe aucun modèle mathématique qui permet de prédire leur comportement. Les chercheurs ont donc monté leur propre expérience avec des avions en papier en déplaçant le centre d'inertie d'avant en arrière grâce à un ruban adhésif en cuivre. Et ils ont également procédé d'une manière similaire avec des assiettes jetées dans de l'eau également. Donc ils ont fait des études assez intéressantes, hein, je vois ça. Et si le centre d'inertie se trouve autour du milieu de l'aile, eh bien l'avion se comporte de manière erratique. Placé trop proche du bord de l'air et l'avion effectue un plongeon. Entre les deux se trouve un point d'équilibre où les forces aérodynamiques abaissent l'aile quand l'avion tente de monter et la soulève quand il essaye de descendre et il parvient ainsi à planer. Donc les résultats, ça leur permet de créer un genre de simulateur de vol capable de prédire les mouvements de ces objets. Les chercheurs ont précisé que cela ne s'applique pas aux ailes d'avion classiques mais uniquement à des ailes fines et plates. Cela pourrait permettre de créer donc des petits appareils volants comme des drones qui n'ont pas besoin de stabilisateurs ni d'autres surfaces aérodynamiques additionnelles. Mais voilà, l'avenir des drones se cache peut-être dans les avions en papier. J'aurais bien voulu avoir une vidéo des expériences parce que je vois très bien ces chercheurs dans les laboratoires en train de s'envoyer des avions en papier qui volent un petit peu partout. Mais c'est de la science, c'est de la recherche et on essaiera bien sûr après de pouvoir développer une technologie similaire dans l'aviation. Allez savoir, c'est ça la science. Et c'est ça qui est intéressant. Je collectionne des canards vivants. C'est pas moi, c'est Andreas et Nicolas qui en parlent. Tout de suite sur l'antenne des Graphites.
surfe sur le web et qui bévant un canard, j'achète, j'achète.
Et si quelqu'un surenchérit, tardard, je surenchéris, chéri,
chéri. Je collectionne des canards, oh, oh. Je collectionne des canards par milliers. Je collectionne des canards, oh, oh. Je collectionne des canards vivants.
Je sais que c'est impossible, mais moi j'y crois. Je sais que c'est impossible, mais c'est comme ça.
Je désire acquérir tous les canards de la planète.
Je collectionne des canards vivants. T'es Andreas et Nicolas, c'est sympa, c'est frais après tout. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Elle a raison de collectionner des canards vivants. Alors, du coup, je suis un peu perdu. Alors, il y avait deux. S'il y avait un article qui parle des allergies. Oui, aucune transition. Je cherche même plus à avoir des transitions maintenant. Si vous habitez sur l'arc méditerranéen, vous avez donc peut-être le nez qui démange, les yeux qui coulent, des éternuements contrôlables depuis un petit peu l'arrivée du printemps. Donc on sait ce que c'est. Hein. Dans la région, ce sont les cupressacées qui sont donc le séquoia, le cyprès et genévrier qui sortent de leur repos hivernal, produisent du pollen en grande quantité. Dans l'ouest de la France, c'est le pollen de frêne qui, lui, sature l'air. La saison 2022 a donc commencé assez tôt, dès la mi-janvier, hein, apparemment, notamment à cause des températures douces enregistrées durant le début de l'année. Une tendance qui risque de perdurer, voire de s'accentuer avec le réchauffement climatique, bien évidemment. Ying Zhao Zhang et Alison Steiner de l'Université du Michigan travaillent sur une simulation informatique qui prédit l'intensité et la durée des émissions de pollen. Et ils ont fait une simulation entre 2081 et 2100. Bon, c'est dans quelques années quand même. Hein. Il va falloir les atteindre ces années-là. Dans un monde où les températures auraient quand même bondi de 4 à 6 degrés Celsius. Hein. Leur analyse ne concerne que les États-Unis. Oui, parce qu'ils ne s'intéressent qu'aux États-Unis. Le reste ne compte pas. Et ils ont travaillé sur des plantes responsables de plus des 3/4 des allergies respiratoires du pays. Leur résultat est quand même assez intéressant parce que la saison des pollens pourrait être beaucoup plus longue et aussi plus intense que celle que nous connaissons actuellement, ce qui est donc une mauvaise nouvelle pour les allergiques. La simulation indique que les pollens de printemps pourraient apparaître avec 10 à 40 jours d'avance, donc jusqu'à un mois en avance, et ceux d'été et d'automne perdurer jusqu'à 15 jours supplémentaires. Et donc concernant l'intensité des émissions de pollen, toutes les espèces botaniques qui avaient été analysées ne réagissent pas de la même façon. Les précipitations et la température diminuent la production journalière de pollen de près de, d'un tiers pour l'Aulne, mais augmente de près de moitié pour le Chêne. Donc selon le, comment dire, le, l'arbre qui est concerné, selon le pollen qui est concerné, il peut y avoir des différences assez importantes. Mais malgré tout, eh bien, l'augmentation globale des émissions de pollen sur une année est en hausse de 16 à 40%. Et en plus, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Ça dit aussi qu'il y a plus de pollen. C'est une observation qui est faite depuis de nombreuses années par la communauté scientifique. Quand les concentrations de CO2 entrent dans la simulation des chercheurs, eh bien le pic de production de pollen est 200% plus haut que celui observé ces dernières années, toujours aux États-Unis, bien évidemment. Alors, les allergies respiratoires dues au pollen, c'est un véritable enjeu de santé publique. Ces allergies concernent presque un quart des Français, que ce soit les adultes ou les enfants. Chez les personnes prédisposées, les allergies respiratoires, comme le tabac ou la pollution, peuvent favoriser l'apparition de l'asthme. Cette maladie chronique se caractérise par l'inflammation des bronches, qui provoque des épisodes d'essoufflement, de pression thoracique, de toux également. Donc il y a près de 2000 personnes qui décèdent chaque année des suites de l'asthme, dont une centaine d'enfants ou de jeunes adultes. Santé publique France estime que plus de 60 000 personnes sont hospitalisées pour une crise d'asthme chaque année. Dans les années à venir, les allergies respiratoires risquent de durer plus longtemps, d'être plus intenses, ce qui augmente bien sûr le risque de complications. Et donc cette simulation qui a été faite par ces chercheurs ne sont pas véritablement dans un optimisme débordant, apparemment, bien évidemment. On a, je ne pense pas, parlé du télescope spatial James Webb dans cette émission. Je n'ai pas le souvenir. C'est une mission qui débute à peine, mais son programme se veut bien, bien rempli. Alors, c'est un nouvel observatoire qui a été lancé par la NASA et l'Agence spatiale européenne. Et donc, du coup, ça a été lancé en janvier dernier. Je pense qu'on n'en a pas parlé, ça ne me dit rien, j'ai dû l'oublier. Et donc, du coup, c'est l'occasion aujourd'hui d'évoquer ce télescope spatial James Webb. Si le déploiement de ces instruments avait commencé lors de son acheminement dans l'espace, eh bien, les résultats des premiers calibrages se font déjà connaître, hein, déjà depuis d'ailleurs février. Le télescope a procédé à l'observation d'une étoile, et cet impressionnant miroir qui fait quand même plus de 6 mètres de diamètre semble bel et bien fonctionnel, et c'est tant mieux, et il va pouvoir ausculter des nébuleuses, des galaxies, des exoplanètes au cours des prochains mois. Alors les ingénieurs donc ont insisté, hein, les capacités de ce télescope devraient changer le futur de l'observation spatiale grâce à des instruments d'une précision totalement inouïe. Concernant l'observation d'exoplanètes, eh bien ce télescope pourra recueillir des données sur l'atmosphère de certains de ces mondes lointains, offrant des outils aux scientifiques pour étudier la composition de ces planètes, justement. Et donc, il y a eu un article publié il y a quelques semaines qui explique que ce télescope pourrait même analyser le niveau de pollution atmosphérique. Ça peut être assez intéressant. Et cet article se base sur une étude qui a été publiée en février expliquant que la détection de certaines signatures chimiques pourrait indiquer la présence de civilisations potentiellement industrielles. Ça veut dire qu'en clair, le télescope spatial James Webb pourrait débusquer des civilisations extraterrestres. C'est ça que ça veut dire. Alors, du coup, il y a certains gaz, notamment le chlorofluorocarbure, qui est principalement utilisé dans la réfrigération, qui est dans le viseur des astrophysiciens en quête justement d'une vie extraterrestre. Et sur Terre, eh bien, ce fameux gaz provoque une altération de l'atmosphère. Ça endommage notamment la couche d'ozone, on en avait déjà parlé il y a quelques années. Certains pays avaient d'ailleurs limité l'utilisation de ce chlorofluorocarbure afin de ralentir la forte pollution qui en est la conséquence. Donc s'il y a une civilisation développée d'un point de vue industriel, qui existe sur une exoplanète, eh bien, rechercher des traces de ce fameux chlorofluorocarbure dans l'atmosphère, ça pourrait théoriquement laisser supposer l'existence d'une telle vie. Et donc, les nombreux instruments déployés sur ce télescope sont autant d'outils pour effectuer ces détections grâce à différentes méthodes, comme notamment la spectroscopie, je vais y arriver, spectroscopie, oui, du coup on va pouvoir analyser un petit peu les composés chimiques qui existent dans l'atmosphère, et du coup la signature de cette atmosphère peut nous donner une information sur ce qui se passe sur la planète concernée. C'est ça un petit peu l'idée. Donc James Webb pourrait ainsi analyser l'atmosphère en quelques heures de certaines exoplanètes, et notamment de ces planètes qu'on considère comme pouvant potentiellement être habitable. Et donc, du coup, ça donne des informations assez intéressantes. Donc, il y a quelques planètes ou exoplanètes qui vont être identifiées, donc analysées. C'est une précision de ce dispositif qui est assez intéressant et qui est un avantage non négligeable pour le domaine de la planétologie, bien évidemment. Alors, déceler l'existence d'extraterrestres sur un monde extérieur au système solaire, c'est une tâche encore lointaine, mais justement, les observations de ce télescope dans le cadre de sa mission principale permettront peut-être d'avoir des informations. En tout cas, les observations concrètes attendues par le grand public et par les scientifiques vont débuter à peu près cet été environ, en juillet-août 2022. Et donc, du coup, on va pouvoir analyser tout ça et regarder ces informations. C'est passionnant, on regarde ce qui se passe très très loin de nous pour essayer d'en savoir plus. On suivra bien évidemment dans cette émission Biotine toute cette actualité par rapport à ce télescope, bien évidemment. Batignolles avec Marché de Libos sur l'antenne de Graphite.
Marché de Libos, c'est coloré de monde, t'es malin comme un gosse, si t'y restes que deux secondes. On vend sur le parking des voitures et des jeans, ça marche en un tout va ici, on stationne pas. Au marché de Libos, il manque plus qu'un chameau, qui vont aux albatros sa dernière goutte d'eau. La couleur du piment et celle de la peau se mélangent tendrement pour ce moment qui est. Marché de Libos, on trouve toutes les étoffes, à croire que les Romains sont restés dans le coin. Si le soleil est clair, ce marché centenaire, c'est pour qu'on ait la chance d'être un peu en vacances. Au marché de Libos, ça parle portugais, c'est cultiver sa bosse, elle fait rien à moitié. À croire que le Porto et l'amour qui est fier viennent juste d'arriver de l'autre bout de la terre. Marché de Libos, si des fois ça se corse, c'est pour mieux marchander, voir les prix au rabais. Ça te fait de l'animation, avec des voix cassées. Pour vendre son poisson, faut avoir la santé. Au marché de Libos, il faut voir le boucher, qui débouche les oreilles à l'heure de la pesée. Lui c'est tout un poème, quand il cause boucher l'aime, sans jamais se couper, il arrive à chanter. Au marché de Libos, on mélange les senteurs, ça c'est du près d'Écosse, mais surtout près du cœur. Au marché de Libos, c'est l'heure du ballet, il reste quelques bras si tu veux nous aider. Au marché de Libos, y'a déjà des musiciens, qui n'arrivent pas en rôle s'ils ne tendent pas la main. Au marché de Libos, quand on aura le vieux os, on y rôlera notre poste de chameau.
C'était donc Batignolles avec Marché de Libos. Alors j'étais en train de regarder, parce que moi qui ai une, comment dirais-je, une connaissance limitée de la géographie, je ne savais pas si Libos était... Non, bah non, je pensais que c'était en Portugal, je ne sais pas pourquoi, mais non. Parce que je voulais vous parler de cette découverte au Portugal. Bah tant pis, il y avait peut-être une transition, j'en sais rien, on va voir. C'est assez intéressant parce qu'on a découvert au Portugal la plus ancienne momie du monde. À quand remonte la première trace de l'espèce humaine? Quand les premiers rites funéraires ont-ils été inventés? À quoi ressemblaient-ils? C'est des questions relatives aux origines de la biologie et de la culture humaine qui permettent à de nombreuses personnes de satisfaire à leur curiosité personnelle. Les rites funéraires diffèrent en fonction des cultures et sont façonnés au cours du temps par les croyances des populations, mais aussi par la géographie et le climat également des milieux. Et donc les momies humaines figurent parmi les restes archéologiques les plus fascinants car leur découverte est souvent fortuite et que les traits de certaines d'entre elles sont conservés de façon si incroyable que les personnes semblent presque dormir. Il y a près de 60 ans en arrière, l'archéologue portugais Manuel Faneiras dos Santos a photographié les corps dans des tombes au sud du Portugal qui datent d'il y a 8000 ans. Or, certaines de ces photographies n'avaient pas été développées et leur récent développement justement ainsi que l'analyse des tombes permet à ces archéologues d'affirmer que l'un des corps enterrés avait été momifié. Selon les archéologues, cette pratique aurait également été appliquée à d'autres corps dans la même zone et aurait pu permettre de transporter ces derniers avant de les inhumer. Les archéologues ont de plus pu déterminer que le corps avait été momifié en raison de la position des os du squelette car ces derniers ne présentaient pas une configuration naturelle. Les membres étaient en effet fléchis au-delà de leurs limites naturelles, ce qui suggère qu'ils ont été liés et maintenus en force dans ces positions. Et l'absence de décomposition du corps liée à la momification est par ailleurs corroboré par le fait que les petits os qui composent le pied, par exemple, demeurent en configuration anatomique après 8000 ans. C'est quand même totalement fascinant. La découverte donc de cette momie portugaise est surprenante pour deux raisons principales. La première est que les momies sont la plupart du temps associées aux cultures égyptiennes et incas et qu'elles sont peu connues, notamment en Europe. Outre le fait que la momification était très répandue dans ces deux dernières cultures par rapport à d'autres, il est important de considérer qu'il existe un biais environnemental quant à la découverte de momies. La préservation de ces momies est favorisée notamment dans des environnements désertiques et secs et qu'ils sont restés au cours des 8 derniers millénaires. Et donc la présence de momies en Europe, c'est très rare et la momie portugaise offre donc une perspective nouvelle quant au rite funéraire des populations dans cette zone. Le second aspect surprenant, c'est ça concerne l'âge de la momie, car cet âge dépasse celui de toutes les momies connues, notamment des momies de l'Égypte antique, qui datent d'environ 4500 ans. Là, on est sur une momie qui aurait donc 8000 ans, et c'est au Portugal, c'est assez fascinant, bien évidemment. On écoute un dernier titre dans cette émission, et après on se quittera pour la fin de Biotine sur l'antenne de Graphite. The Landskills avec Happy Campers sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité, de votre attention. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine, l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que la rediffusion de cette émission, c'est mardi prochain à 10h, entre 10h et 11h. Et la nouvelle émission, samedi prochain à partir de midi, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. D'ici là, vous nous suivez sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net, que ce soit en direct ou en différé, parce que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer toutes les émissions en podcast sur le site internet graphite.net. Merci à tous, on se retrouve samedi prochain, à bientôt, au revoir.